Il y a une semaine, le 2 juin, avait lieu la journée mondiale des troubles des comportements alimentaires. Et à cette occasion, Claire, tu as rencontré SAB 53.
Une jeune fille dépense plus de 400 euros dans la nourriture pour ensuite tout régurgiter. C'est malheureusement un des nombreux profils que rencontre Solidarité Anorexie Boulimie à Laval. Aline Lebossé a été atteinte d'un trouble alimentaire de ses 15 à ses 40 ans. Elle est aujourd'hui présidente de cette association.
C'est une association qui a été créée donc en 2013 par trois couples de parents qui avaient l'habitude d'aller au groupe de parole de Rennes. Et du coup, ils se sont dit que ça serait bien de créer du coup une association en Mayenne. Je les ai rejoints donc dès le début, parce que j'ai vu un article dans le journal et je me suis dit, tiens, il existe quelque chose pour les troubles alimentaires en Mayenne. Donc voilà, c'est une association donc essentiellement qui est animée par des parents ou d'anciens malades ou de personnes malades et qui s'adresse à des personnes souffrant de troubles alimentaires, mais aussi aux parents, aux conjoints, à la famille.
Et les actions, c'est plus par exemple des groupes de parole?
On propose un groupe de parole une fois par mois, donc le troisième samedi de chaque mois. En temps normal, à la maison de quartier du Pavement, à Laval. Là, avec la crise sanitaire, on propose du coup nos réunions, nos rencontres en visioconférence.
Donc il y a quand même un suivi malgré la condition. C'est important pour vous, j'imagine, de tenir ce lien.
Ah oui, oui, oui. Lors du premier confinement, du coup, on n'a pas proposé de rencontre parce qu'on était un peu perdus aussi. On ne savait pas trop comment faire. Et puis après, on nous a parlé de la visioconférence, de propos de faire nos rencontres en visio. On a testé et on a vu vraiment que ça a marché beaucoup et que ça ne touchait pas aussi le même public.
Et est-ce qu'on peut, pour nos auditeurs, peut-être décrire un peu ce que c'est un trouble anorexique et un trouble boulimique?
Il y a trois grands troubles de conduite alimentaire. Il y a à la fois il y a l'anorexie. Donc l'anorexie, c'est une personne qui va réduire son alimentation, qui va trier, supprimer certains aliments qu'elle estime trop gras. C'est une personne qui va perdre du poids. On parle en moyenne de 15% de son poids de départ. Une personne boulimique, du coup, c'est une personne qui va manger beaucoup en très peu de temps, mais qui, du coup, va compenser ses crises de boulimie, soit en faisant beaucoup de sport, soit en jeûnant les jours d'après, soit, du coup, en prenant divers médicaments pour perdre le poids qu'elle aurait pris avec ses crises. Et le troisième gros trouble alimentaire et qui s'est beaucoup développé avec le confinement, c'est l'hyperphagie. Donc, à l'inverse de la boulimie, parce qu'on n'en parle jamais, l'hyperphagie, mais là, ça a pris beaucoup d'ampleur avec la crise sanitaire. C'est en fin de compte des personnes qui vont manger en grande quantité à longueur de journée sans faim, mais qui ne vont pas du tout compenser du coup leur crise, et du coup s'ensuit une prise de poids énorme, importante, et il y a énormément après de culpabilité et de perte de confiance en elle, quoi.
Et on sait à quoi c'est dû, j'imagine, aux conditions de la vie quotidienne, à un stress, à ce genre de choses.
Alors il y a différentes causes, parce qu'on a tendance à dire que derrière chaque personne malade il y a une histoire différente. Généralement on y retrouve surtout un contexte familier difficile, un élément perturbateur, enfin, quel qu'il soit, un décès, des violences diverses. C'est souvent ça qu'on retrouve. Après, il y a aussi le fait que ça se développe à l'adolescence et du coup qu'il y a un peu les pertes de repères, la peur de passer à l'âge adulte. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse.
Et si on se sent un peu concerné par ces problèmes, ou on se pose peut-être la question d'être concerné ou pas, parce que on peut avoir des troubles alimentaires sans être considéré anorexique ou boulimique, ou est-ce que justement c'est dès qu'on a des petits troubles qu'on peut être considéré comme ça et qu'il faut aller voir quelqu'un?
Alors du coup effectivement l'importance d'aller voir quelqu'un, c'est quand on se rend compte qu'en fin de compte on est devenu obsédé par la nourriture, que ça prend vraiment toute la ça prend tout le quotidien, quoi, que la personne ne pense plus qu'à ça et que du coup elle n'arrive plus à vivre sa vie comme avant, quoi. Une personne peut continuer à aller travailler, mais du coup, dans sa tête, ça va être « Ah oui, mais non, mais je ne vais pas manger ce midi, c'est pas grave. » C'est ça, c'est une personne. Après, les parents, ils se rendent souvent compte quand leur enfant perd beaucoup de poids et commence du coup soit à trier son alimentation, soit du coup refuse de manger avec eux. Là, c'est des signes qui doivent alerter les parents.
Et à qui on s'adresse justement, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, on peut s'adresser aux mêmes personnes ?
Alors, pour les enfants du coup, de moins de 16 ans, du coup, ça va être plus vers la pédiatrie ou pédopsychiatrie. Après, les adultes, après que ça soit adulte ou enfant, je dirais, la première personne qui devrait être concernée, le premier professionnel de santé, c'est le médecin traitant, qui devrait déjà prendre conscience... des soucis. Après, c'est à lui normalement d'orienter vers des professionnels de santé plus spécifiques s'il y a besoin.
Et vous disiez que vous aviez été touchée par ce trouble un peu plus jeune. Est-ce que grâce à CAB53, ça vous a aidé d'en parler, de prendre la parole justement pendant ces temps de parole ou de voir quelqu'un ? Ça vous a aidé ?
Du coup, quand j'ai fait connaissance avec l'association CAB53, donc ça faisait plus de 15 ans que j'étais malade et je n'avais jamais eu de suivi par des professionnels de santé spécifiques, spécialisés en TCA. Donc j'avais eu différents suivis, mais pas adaptés. Le fait de pousser les portes de l'association, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas seule, qu'il y avait d'autres personnes, effectivement, comme moi, qui souffraient de cette maladie. Et du coup, il y a eu une certaine entraide, un soutien que je n'avais pas trouvé à l'extérieur, qui m'a encouragée du coup à commencer des démarches de soins avec des professionnels de santé spécifiques et spécialisés dans les TCA. Quoi.
Parce que je pensais que le premier mot de cette association, c'est solidarité. Donc il y a vraiment ce lien et cette entraide entre vous pour aller mieux.
Ah oui, là du coup, on le voit de plus en plus parce que du coup, là, on en a mis en place un groupe WhatsApp. Du coup, pour les personnes qui fréquentent nos groupes de parole, pour du coup qu'il y ait un soutien, le soutien et l'entraide continuent d'exister entre nos groupes de parole, parce qu'on se rend compte que un groupe de parole par mois, c'est pas forcément suffisant. Ça aide les personnes. Hein. Beaucoup nous disent que ça leur a permis de se sentir moins seuls, que ça les a aidés à aller voir des professionnels de santé. Mais après, on se dit, après le groupe de parole, la personne, souvent, elle se retrouve de nouveau seule. Donc là, on a mis en place ce groupe-là qui permet aux personnes de continuer de s'entraider. Et ça marche très bien. Du coup, je le propose aux personnes qui participent à un groupe de parole, de façon à ce que que ça soit pas n'importe qui puisse participer au groupe WhatsApp. Quoi.
Et je reviens un peu sur l'actualité. Il y a eu 3 fois plus d'appels en 2020 pour l'association. Et vous disiez avec des profils de plus en plus jeunes. Comment vous l'expliquez ?
Tout simplement par le fait que le premier confinement, ça a perturbé tout le monde. D'autant plus les jeunes qui, du jour au lendemain, ont perdu leur repère, se sont retrouvés chez leurs parents 24 heures sur 24, des fois avec un contexte familial pas forcément évident. Et du coup, ça a engendré une montée de stress, d'angoisse, que ces personnes-là, du coup, ont manifesté du coup, en mangeant plus ou du coup en mangeant beaucoup moins. Alors, elles ne s'en sont pas rendues compte forcément tout de suite. C'est après le deuxième confinement, du coup, à la sortie du deuxième confinement, où on a commencé à avoir des appels. Parce que du coup, les personnes allaient vers l'extérieur, du coup, avaient le regard des personnes de l'extérieur. Et là, elles se sont dit, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et on a commencé du coup à recevoir beaucoup d'appels de parents, pour des jeunes de 14, 15 ans, qui du coup... leur comportement avait changé, ils étaient beaucoup plus agressifs, les jeunes. Il y avait... Soit les jeunes avaient perdu beaucoup de poids et du coup, les parents s'inquiétaient, se sentaient démunis. Soit du coup, c'était des personnes qui s'étaient réfugiées dans la boulimie et n'arrivaient plus à s'en sortir et n'arrivaient pas à s'arrêter, quoi.
Peut-être une aide pour quelqu'un... qui a un trouble alimentaire, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Alors, j'encourage du coup la personne du coup à participer à nos groupes de parole en premier, pour qu'elle puisse se rendre compte que qu'elle n'est pas seule, qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés qu'elle. Généralement, en échangeant avec d'autres personnes, la personne se sent moins seule, se sent aidée, se sent soutenue, entourée. Après, la chose qu'on dit et qu'on rappelle toujours, c'est qu'on ne remplace jamais les professionnels de santé. On est des bénévoles, on est des personnes effectivement qui avons connu les troubles alimentaires ou des parents ayant eu des enfants avec ayant eu des troubles alimentaires. Mais notre but après, c'est d'orienter si besoin les personnes vers des professionnels de santé. Mais de vraiment de mettre en place un suivi parce que seul, en fin de compte, on ne peut pas s'en sortir.
Oui, ce que j'allais vous demander, ça prend combien de temps d'en guérir, en tout cas d'aller un peu mieux ?
Je dirais que tout dépend s'il y a une prise en charge assez rapide ou pas. Un jeune qui est pris en charge assez rapidement, on va dire s'il est pris en charge un an après le début des symptômes, il va s'en sortir généralement au bout de 3 ans. C'est à peu près les chiffres qu'on a, c'est qu'il faut 3 fois plus de temps pour s'en sortir. Si une personne souffre d'anorexie ou boulimie depuis 10 ans, et ben voilà, faut savoir qu'il faut à peu près 30 ans pour s'en sortir.
C'est quand même vraiment conséquent, même on compare à n'importe quelle maladie, où on se dit, bon, ouais, il y a un traitement, ce sera réglé. Là, c'est quand même sur du long terme, ça s'explique parce que c'est psychologique.
Parce que il n'y a pas de traitement adéquat. C'est ce que je disais au tout début, c'est que derrière chaque personne anorexique ou chaque personne souffrant de boulimie, il y a un parcours différent. La maladie ne se déclare pas de la même façon, ne se vit pas de la même façon, donc il n'y a pas un traitement. C'est toute une prise en charge globale avec un psychiatre, une psychologue, un médecin nutritionniste qui va faire que la personne va avancer. Après, on a tendance à ne plus parler de guérison, mais de rémission. C'est-à-dire que la personne, du coup, apprend à vivre avec ses troubles alimentaires et du coup, ça la perturbe plus au quotidien. Sur 100 personnes souffrant de troubles alimentaires, voilà, il y a un tiers qui va s'en sortir et qui va réussir à vivre avec, un tiers pour qui ça va devenir chronique et qui va vivre avec ces symptômes-là à vie, et il y a malheureusement un tiers qui ne s'en sortent pas. Et il faut vraiment que les personnes en aient conscience et que les professionnels de santé en aient conscience, c'est qu'il y a encore un tiers des personnes souffrant de troubles alimentaires en 2021 qui décèdent des troubles alimentaires.
Dû au mauvais diagnostic, j'imagine, des professionnels ou...
Alors, soit au manque de diagnostic et à l'absence de diagnostic et de prise en charge, soit parce que la personne a tellement honte d'elle, une culpabilité tellement forte qu'elle veut mettre fin à ses jours. C'est la première cause de suicide dans les troubles alimentaires en France.
Donc effectivement, l'association, elle permet de mettre en lumière, j'imagine, de mettre les mots sur des symptômes, des choses qu'on ressent.
On permet aux personnes de parler, d'échanger sur leurs troubles, sur ce qu'elles vivent au quotidien. Ça, c'est la première mission de l'association, c'est vraiment de permettre un temps d'échange aux personnes. Après, notre deuxième mission, c'est aussi de faire de la prévention dans les établissements scolaires. Et notre troisième mission, c'est de travailler avec des professionnels de santé. Ça commence à se faire petit à petit en Mayenne, avec le XAPA. On y croit, on est parti de rien. On ose espérer que, voilà, on touchera... Il y en a quelques-uns qui sont des professionnels de santé qui sont touchés par les troubles alimentaires. Si jamais vous sentez concerné par les troubles alimentaires, que vous soyez une personne qui souffre d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagie, que vous soyez un parent, un frère, une sœur, un conjoint, ne restez pas seul avec votre souffrance, avec vos fardeaux. L'association est là pour vous accueillir. Vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez nous contacter par téléphone, mais ne restez pas seul. La parole libère beaucoup.
Prochain rendez-vous du groupe de parole, ce sera par visioconférence, samedi 19 juin à 14h30. Vous pouvez les appeler au 06 68 63 31 40 ou envoyer un mail u.sab@laposte.net pour recevoir le lien de connexion. Et si vous voulez laisser votre témoignage sur ce trouble alimentaire, vous pouvez les appeler au 07 85 09 99 03.